ces modifications de dernière minute. Comme le disait tout à l'heure Martha, nous avons de la chance dans l'embarras, c'est-à-dire que l'une de nos collègues allemandes s'est désistée, si bien qu'il n'y aura que 3 communications ce matin. Il n'en demeure pas moins que, selon Martha, il faut à tout prix que nous prenions la pause à 11h15, que ça, c'est la seule chose non négociable dans notre programme. Alors, malheureusement, nous allons commencer sans Hélène. Et j'ai le plaisir de présider cette magnifique session qui s'annonce et surtout de vous accueillir pour cette deuxième journée de ce très beau colloque, de ce colloque qui a magnifiquement commencé. Je suis un homme comblé ce matin, entouré par des femmes d'influence, par des gardiennes, par des guerrières, par des voyageuses. Et nous allons commencer par une guerrière, une femme d'influence et aussi universitaire, Michèle Gendreau-Massalou, que je voudrais vous présenter brièvement pour celles et ceux d'entre vous qui la découvriraient, et ils ne sont sans doute pas nombreux dans la salle. Michèle est avant tout une universitaire qui a publié beaucoup de choses sur la littérature espagnole du siècle d'or, mais également sur les cultures, sur la diversité des cultures, sur les langues, sur la francophonie et également sur la traduction. Nous l'avons tous connue à une époque donnée, c'est en tout cas mon cas, dans les années 80, comme femme politique. Elle a été successivement rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours, conseillère pour l'éducation d'un grand président de la République française, ou je ne sais pas s'il faudrait dire un grand président français, sans doute. Elle a été secrétaire générale adjointe et porte-parole de la présidence de la République. Elle a été rectrice de l'Académie de Paris, chancelière des universités de Paris, conseillère d'État, et plus récemment rectrice de l'Agence universitaire de la francophonie et chargée dans la délégation interministérielle française à la Méditerranée des projets relatifs à la formation. Et Michèle me disait qu'encore de nos jours, elle était engagée dans la vie publique, puisqu'elle est aujourd'hui conseillère du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et vice-présidente du groupement interacadémique pour le développement. Elle est très connue à l'étranger, elle a reçu de très nombreux doctorats honoris causa dans 13 universités et elle est bardée de décorations que nous tairons ici. Dans cette séance intitulée « Lire, écrire », Michèle nous propose un magnifique titre pour sa communication, « le donné des langues ». Ce sera à elle de nous expliquer tout cela. À toi, Michèle.
Merci. Sans doute était-il troublant pour moi d'entendre tous ces titres. Je voudrais juste dire qu'ici, je suis, avec tous ceux qui m'entourent, avec tous, une lectrice à l'écoute d'une personne que je désignerai par son sigle, par sa signature, HC. Et c'est en tant que lectrice que je voudrais interroger ce qui nous lie, et que je ne sais pas bien écrire avec un E ou un T. Il n'y a pas longtemps, la voix radiophonique d'HC affirmait qu'elle entend des voix de jour comme de nuit dans ses rêves. Et si je n'ai pas cette chance, la lecture des livres d'HC, je la réalise par l'oreille, en même temps que par les yeux. Les livres d'HC me entrent par l'oreille, et je les écoute, j'espère les entendre. Ils me parlent en langue, en français, mais pas seulement. Je les entends, mais je les hume aussi. Et parfois, je les déguste. Et je crois que l'expérience de lecture fait appel au sens, à tous les sens, dans mon cas. Dans la même émission, HC, la voix d'HC, avait choisi une musique pour accompagner son propos. Et c'était un quatuor de Beethoven qui, disait-elle, l'émeut aux larmes. Elle s'en expliquait pour rapprocher le quatuor des langues par le caractère pluriel des instruments qu'ils rassemblent, par leurs relations intimes et leurs différences. Et j'ai retrouvé là ma propre passion pour cette forme musicale que dans une autre vie, j'ai rapproché de l'Europe, ou dont j'ai montré, dont j'ai tenté de montrer que c'est une métaphore de l'Europe, dans la diversité accordée, où aucun instrument n'impose sa voix aux autres, où tous sont également nécessaires, où les hiérarchies et les discordes font la place à l'égalité de traitement fondée sur la relation. C'est-à-dire qu'entendant par l'oreille les voix d'Hélène, il m'a semblé que c'est cette relation joueuse qui fait partie pour moi de ce que je crois être mon intérêt vital pour HC. Et là, je me suis trouvée avec une pulsion qui était sans doute un peu comparable, mais je dirais pas tout à fait, à celle qui, à 3 ans, m'a menée à éventrer mes poupées pour les poupées qui fermaient les yeux pour découvrir leur mécanisme caché. Et je me suis demandé concernant ce plaisir des sens de ce qui me vient par l'écriture d'HC, comment ça marchait. Et j'ai voulu comprendre, tenter de comprendre une démarche avec la différence que là, le texte ne perd rien quand on le lit dans le détail, qu'il n'est pas affecté, et quelle cette quête ou cette aventure que j'ai engagée et dont je vous donnerai seulement quelques traces trop rapides à partir de quelques pages que j'espère vous voir, mais entendre et humer et déguster. Donc c'est à la fois le travail magique et savant que j'ai voulu explorer dans les deux voies de la présence des langues dans l'œuvre et les mots d'HC. D'abord, ce que j'appellerais l'exposition, notre exposition aux langues, comment on s'expose au soleil. Et d'autre part, par la citation, l'allusion, le collage, l'assemblage, notre voyage dans le passé, le présent, le futur des langues et des espaces. Et j'ai puisé la conviction que ce qui nous lie, et encore une fois, je l'écris de diverses façons, est d'une espèce rare que j'aborderai en conclusion. Les frontières et les murs qui, dans les langues d'HC, s'effacent, si nous suivons son invitation, dont j'essaierai de dire en quoi elle nous lie à HC, c'est un nous qu'il constitue, un nous joyeux et, je dirais, un nous de banquet platonicien ou comestible que je tenterai de définir. Philippine, grand livre sur la lecture en langue, parce que toutes les facettes du goût dans la lecture de toutes les langues s'y retrouvent, et que en langue, la littérature pense par les intraduisibles, mais aussi par ce jeu qui montre les cloisons, mais aussi comment les franchir, et la musique qui fait partie de ce texte en langue. Creusement de passage, fait que le texte exprime en toute langue que toute langue est une langue entre autres, et manière à nous inviter au jeu, au plaisir, à ce versant ludique du tragique, de vie-mort. Et le rire d'Hélène, pour moi, c'est son goût de ce passage. Double lecture donc, avec une manière progressive de nous amener à l'exposition, au risque, au danger, qui est même celui-là de l'écriture en langue. Ma première diapositive, c'est la suite d'un premier passage où les deux premières citations de Philippine, c'est du Freud, titre en français puis traduction allemande. Ce n'est pas ce que vous avez. Vous avez la préface texte allemand reproduit et traduction française, parce que là, nous sommes pris par la main dans une comparaison mot à mot où nous pouvons avoir des mots essentiels, une vision. Der Fantasie, le jeu de l'imagination qui, en 1932, alors que Freud ne peut plus prendre la parole en public, lui fait écrire des conférences pour un public inexistant. Et puis, commentaire d'Hélène qui se greffe, et c'est un autre apport à cette lecture des deux langues qui nous expose aux langues. Et c'est seulement quand, écrit HC, en parler lui est devenu impossible, jamais qu'il en parle en ressuscitant par magie une scène perdue qui n'a jamais eu lieu. Deuxième séquence que je ne projetterai pas, elle est un peu de même nature. Le plurilinguisme de Freud est aussi là une manière de nous exposer à la coexistence et au passage, puisque Hélène écrit « J'étais venue avec passé et futur, comme on vient avec armes et bagages », ça c'est mon commentaire, et elle accomplit la prédiction de Freud, « Suivez le sentier, Pat, wir werden heute einen schmalen Weg gehen, let's follow the path ». Exposition, bien sûr traduction, mais progressivement, après un deuxième texte de Freud qui concerne les différentes instances de la personnalité psychique en allemand, puis traduit en français, puis commentaire poétique, que je ne vous détaillerai pas, mais que vous trouverez sur ma page, c'est un système hybride qui fait de la traduction un passage vivant des langues, y compris dans les majuscules du français qui font appel ou qui sont une connivence avec les majuscules de la langue allemande. Et cette pratique qui nous expose à l'inscription d'un texte en langue étrangère assorti de sa traduction et d'un commentaire, attentive, qui nous guide, qui est d'une pédagogie extrême, fait retour, mais Hélène ensuite va nous livrer à un soleil plus vif, parce que peu après, elle nous expose à une traduction française de Peter Ibbetson, qui montre le charme du récit de Georges Dumouriez au moment où font leur apparition les Philippines, toute seule. Citation d'un très beau poème musical de Celan en allemand, Mandorla, sans traduction. Nous devons avoir été exposés suffisamment pour pouvoir nous y retrouver. Puis réponse de Freud, sans traduction, en anglais, au questionnaire sur les 10 bons livres. Passage en anglais non traduit ensuite de Jensens Gradiva, c'est-à-dire le récit de la façon dont Freud, ayant laissé certains des documents liés à un cas qui souhaitait évoquer dans sa communication au bureau de l'Association internationale de psychanalyse, a dû remplacer un cas par un autre. Le récit du cas du cas. Mon hypothèse est que, après l'initiation à l'exposition, le texte fait le pari que le lecteur va devenir lui-même capable de faire son chemin sur son passage des langues, sur sa manière à lui de faire disparaître les cloisons, sur sa façon de susciter l'apparition du spectre d'une autre langue derrière la langue du texte. Diapo 3. Le texte de la note 1, qui est magnifique, c'est un texte qui sera considéré comme, pour qui le lit en même temps que le texte d'Hélène, comme une leçon d'allemand, tout seul, sans traduction. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne... En tout cas, elle nous jette dans la langue de ce texte, vers lequel elle a créé, évidemment, par son commentaire, une passerelle qui nous invite à le franchir, comme nous pouvons le franchir, je crois. Le passage inaperçu de nos langues vers nos rêves, vers notre autre langue, qui est celle de l'inconscient. Puis le texte anglais de Peter Ibbetson se met à nous parler en direct en anglais pour nous donner les conditions du rêve vrai, ce qui a un rapport fort avec cette autre langue. Il faut revenir en arrière là. Alors, j'en ai peut-être sauté une. Je ne suis pas très bonne sur les maniements de ces diapositives. La traduction. Transmission de pensée à retardement, selon Hélène même, est projetée scrupuleusement pour un rapide banquet mental. C'est là, sur la page de gauche. Et là, quelque chose de ce que je cherche se dévoile par les langues. HC écrit « J'ai le regret de ne voir pas le temps ici de vous convier à un banquet mental. Je vous aurais proposé de savourer, et c'est nous qu'HC convoque, invite, avec une extrême délicatesse, ce délicieux repas partagé. Je vous aurais proposé de savourer toutes les versions dont j'ai pu avoir connaissance de ce moment si important dans le chemin de notre héros. Vous goûteriez bien des surprises. Chaque conférence nouvelle est fausse. En effet, sa voisine dans un feu d'artifice à gogo. En français, Freud aurait dit ceci. Hein, et de son côté, Freud aura écrit, citation en allemand, et là vous la trouvez. Lecteur ami, lecteur convié, lecteur qui s'associe aux langues devenues des mets délicieux, chacune gardant, comme dans le quatuor, les différents instruments, son goût propre. Le « nous » repas de fête égalise sans confondre. C'est pourquoi, là où le français parle d'acte psychique, l'anglais de « mental act », Seelischer Akt, voilà, nous pouvons aujourd'hui, par cette projection, passer entre ces différentes langues et qui ne disent pas exactement la même chose. Et Hélène elle-même nous aide en traduction, écrit-elle, Seelisch ne sera donc pas relevé, c'est Aufhebung, c'est l'intraduisible qui apparaît, c'est le fait que toute langue prend le corps pour en faire un autre corps. D'où la portée philosophique du dernier état de ce livre qui expose les langues en création. Dans ce mixte devenu possible d'allemand et de français, qui marque comiquement un coup de téléphone à Jacques Derrida, pas de signe de paragraphe pour distinguer les répliques. S'il y a une télépathie en réalité que j'appellerais une si-télépathie, alors on peut faire mouton, dit-il, que malgré la difficulté de la prouver, mais non l'impossibilité, c'est un Rechtsauffiges Phänomen. Tu parles en franc-allemand maintenant, dis-je. En Deutsch-Français, dit-il, et une note en allemand. Dans ces zones où s'effacent les zones de démarcation, où l'on déjoue les portails du temps, selon l'expression du texte même, c'est par le mélange des langues que s'accomplit leur capacité de nous dévoiler. Parce que cette route est un don. C'est une façon de faire arriver des voix, de mettre en œuvre un pouvoir lié à la pratique des langues entre elles, qui est une pratique désarmée, qui est une pratique où les contrôles aux frontières sont abolis. Et ce don s'inscrit sous la figure d'un nom propre, ombre bienveillante et présente, John Donne. La polysémie de ce patronyme prestigieux inspire depuis longtemps HC, signe et symbole de sa manière propre d'incarner le plus d'une langue. Donne, c'est l'injonction du jeu avec un animal ou humain, que retiendrait un objet ou impératif ectique qui s'adresserait à soi autant qu'il s'adressait à nous dans ce banquet joyeux. Donne apparaît très tôt dans l'œuvre d'Hélène, en 77, il y a 40 ans. À cette époque, j'étais singulièrement vulnérable, écrit HC, aux événements qui se produisaient dans les langues ou entre les langues. J'avais trop d'oreilles. Les choses n'en finissaient pas de signifier. Je sentais que les langues se traduisaient les unes les autres sans que je puisse les arrêter. Il me revient à cette ligne même le souvenir des livres qui me tourmentaient. Leur titre commençait par D, l'initiale du dieu de la mort, celui qui porte Dieu quand il se montre à découvert. L'un de ces textes était de Donne. Je ne veux pas y revenir, le nom de Donne m'interpellait, Donne. Les noms me donnaient des ordres. Dans l'état où j'étais juste après ma grande maladie, comment au reste désobéi, Donne, je donnais, elle donne. Ça, c'est moi qui dis. Manhattan, 2002, en deux langues alternées, en chant A mais B, nouveaux aperçus, donne-moi licence, donne, dit donne, dès que tu dis donne, tu prends Dieu, dit donne, dit donne, take my picture, prends ma photo, dit Dieu, et donne-moi licence d'être un homme monstrueux, et tout fut faute de donne, ma faute sur le banc, et dire que j'étais agrégé d'anglais, quoi donner à celui qui te donne son éternelle photo, etc. Dans cet entrecroisement de langue et de voix, le motif musical, comme dans les personnages de la tétralogie, fait retour, insert de langue anglaise dans Hérité, inventé avec Geoffrey Gibson, un des textes de peinture. En direct, Gibson raconte en anglais, et la porosité aux voix enchante le dialogue d'Hélène d'HC avec Ruth Beckerman, poète en images, peintre en mots, voix, qui écoute les voix d'antan, les voix des temps, aujourd'hui, tous ces parlers musicaux, côte-côte, tous ces parlers musicaux dans la langue allemande, relevés d'accents délicieux, les Roumains, Ruthènes, Juifs, Arméniens, Hongrois, Polonais, Ukrainiens, tous parlent en allemand. Soit le beau, le noble, le pur, soit un alliage pigmenté de yiddish ou de viennois. Enrichissement langagier, qui aujourd'hui, et c'est la dernière étape de ce don, à partir de deux écrits récents, que je n'aurai sans doute pas le temps de commenter autant que je le souhaiterais, je voudrais juste reprendre en un mot, le détrônement de la mort, journal du chapitre Los, et un chapitre Los. Le détrônement de la mort donne des clés pour un chapitre Los, et Los, c'est un peu une résurgence de Donne. C'est un nom propre, et c'est l'amour et sa langue à la fois unique et hantée par d'autres, puisque chacun des deux en a plus d'une. Nous nous aimions dans une langue, Nous nous aimions dans une langue dans laquelle l'amour joue à la marale d'autres langues, saute, fait semblant, fait l'enfant. C'est ainsi l'amour s'aime, cache-cache, dans quelle langue l'amour d'Antoine, qui a pâtre, se jouait-il de lui, d'elle, eux. Nous nous aimions en anglais dans une langue qui n'était pas la mienne, qui n'était pas la sienne, qui était, n'était pas la nôtre, dans laquelle nous débarquions, arrivant excités que nous sommes. Cela se passait dans une autre vie, comme dans un rêve, ou plutôt par rêve, sans faute. Et très vite, l'os engendre l'ost, dont nous avons parlé. Tout aura toujours commencé par le dernier mot, l'ost. Toi ici, j'ai crié comme cela, dis-je à ma fille, toi, pronom antonyme, dis ma fille, tu n'aurais pas pu le dire en anglais, dis ma fille. Je n'ai jamais aimé Isaac absolument qu'en français, dis-je, et mon oreille se tend. Parce que la langue française, elle aussi, parle. Je n'ai jamais aimé Isaac absolument qu'en français. Jamais aimé Isaac absolument qu'en français. Est-ce que c'est absolument jamais Isaac autrement qu'en français, ou bien aimer autrement qu'en français dans une version où jamais et absolument ne sont ni jamais ni absolument, mais sont longs, dans le longtemps, toujours. Et le tableau de ces langues se précise dans ce tout petit extrait que je ne commenterai pas. Donne d'abord, when love with one another so interanimates two souls, that able soul with thence doth flow. Et puis Shakespeare, donc allusion et citation en langue. Donne, cannot, et Macbeth Lennox. What's the matter? Horror, horror, horror. Oh, Macduff, qui le rote, or, est mort. L'os, donne, et l'allemand. Vasis, los, j'ai mis ma main. Los, nom du fantôme, ghost ou spectre. Getspent, fantasma, qui hante maman. Le passage, et le lecteur appelé par ce nous, auquel le don d'Hélène en langue, les connivences, le don des langues, mais le renvoi de langue à langue, de mot à mot, de sens à sens, nous appelle. Toute l'histoire des mots dans la littérature nous entraîne dans une ronde, une danse et un banquet joyeux et grave. Nous sommes devenus joueurs de langue et de mots, libres d'aller faire ce que nous ne connaissons pas de nous. Ça fait partie du charme de cette histoire, un élément de jeu supplémentaire de liberté, dit ma fille. Quand on est dans l'autre langue, hello my love, comment vas-tu? Liberté, liberté, dis-je. Mon amour est dans ta langue. Je n'ai jamais aimé Isaac en français, je n'ai jamais aimé qu'en français. On ne peut dire longtemps qu'en français. En anglais, longtemps devient court. Don't stick. Je prends ces ciseaux et je coupe. Je suis coupée. Les langues d'Hélène, c'est de l'amour. Une manière d'aimer et de passer, d'adoucir ou de nous aider à franchir les portes des morts, les portes des pertes, et cela ne s'arrête pas, ne s'arrêtera pas, mais moi, si.
Merci beaucoup, Michel. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de garder du temps pour la discussion. Nous n'avons qu'un seul impératif, si j'en crois Martha, c'est de nous arrêter à 11h15. Et il me semble que nous avons le temps, donc dans ce cas-là, de prévoir un temps de discussion et d'échange. La seule question qui se pose donc, c'est soit nous écoutons les trois communications à la suite, soit nous entamons tout de suite la discussion. Mon avis, c'est que nous avons intérêt à passer tout de suite aux autres communications, de manière à garder beaucoup de temps pour la discussion. Donc, si vous en êtes d'accord, je me tourne vers la gardienne, vers Marie-Odile Germain, dont je voudrais dire quelques mots avant qu'elle ne vous dise, avant qu'elle ne vous présente sa communication. Marie-Odile Germain, beaucoup d'entre vous la connaissent, elle est conservateur général honoraire au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. C'est une spécialiste des fonds littéraires modernes et contemporains en général, et en particulier du fonds Hélène Cixous. Marie-Odile a été par ailleurs commissaire de plusieurs expositions que certains d'entre vous et d'entre nous, je m'inclus, ont vues et appréciées. Je pense en particulier à Brouillon d'écrivain en 2001. Je pense à Michel Butor, l'écriture nomade, en 2006. Je pense à l'exposition consacrée à Antonio Tabucchi ou Le fil de l'écriture en 2014. Je pense enfin aux écritures de Roland Barthes en 2015. Marie-Odile a également publié, ou plus exactement dirigé, des publications dont je voudrais également faire état. On remonte à l'une des toutes premières, et l'une des plus belles aussi, en 1992, Les plus belles lettres manuscrites de la langue française. On peut citer également en 2000 les trésors de la Bibliothèque nationale de France, notamment les aventures et créations au XIXe et XXe siècle. Et enfin, en 2006, le volume que nous connaissons tous, codirection, le volume que nous connaissons tous de Genèse, généalogie, genre, autour de l'œuvre d'Hélène Cixous. Aujourd'hui, Marie-Odile nous présente une communication intitulée « L'autobiographie à l'œuvre » ou « Les leçons des manuscrits ». Et je crois me souvenir que des photocopies doivent circuler dans la salle avant qu'elle ne commence sa communication. Alors, on en a tous, je crois. Et voilà, donc ce sont des photocopies de manuscrits. Mais Marie-Odile va tout de suite vous en dire plus. Marie-Odile, à toi.
Merci. Alors, ayant un petit peu peur de la technologie la plus sophistiquée, celle des PowerPoint et des diapos, j'en suis revenue au papier et à la photocopie. J'en suis revenue avec un effroi un peu mystique, magique, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez peut-être d'ailleurs dans ces photocopies, quelque chose, même dans une photocopie de manuscrit, qui donne présence au secret, au sacré de l'écriture, comme dirait Hélène. Il y a même certains feuillets dont je me suis dit, est-ce que je peux en photocopier le brouillon? Donc j'ai demandé l'autorisation d'Hélène, qui me l'a donné, mais ce n'est pas seulement un problème juridique de droit d'auteur, c'est aussi un problème d'éthique. Le manuscrit, c'est quelque chose qui dit autre chose que la page imprimée. Ma communication était donc intitulée « L'autobiographie à l'œuvre ou les leçons des manuscrits ». C'était un sujet que j'avais donné il y a quelques mois, et après je me suis aperçue que j'étais bien en peine de le traiter, donc je me suis raccrochée au radeau des manuscrits, ce qui va vous expliquer un petit peu mes tâtonnements. Je n'ai jamais pensé qu'il puisse y avoir un texte qui ne soit pas autobiographique, m'avait dit HC, ce qui m'avait rassuré. À plus forte raison, pensais-je, dans une œuvre comme la sienne, où la première personne semble si constamment présente, et confondre l'auteur avec la narratrice. Difficile pourtant d'assigner l'œuvre de Cixous à une place génériquement déterminée. Ni autobiographie, ni autoportrait, ni autofiction, elle est moins une écriture du moi qu'une écriture du je, donnant la parole à l'autre, transfigurant le réel, autorisant la revenance. Et cette écriture en acte, c'est dans les manuscrits qu'elle se déploie d'abord. Il sera donc bien question ici de lire, écrire, ce qui concerne le sujet de toute cette matinée, mais de lire ces écrits singuliers que sont les archives littéraires. Leurs leçons, c'est-à-dire leurs variantes, leurs variations, leurs métamorphoses, n'enseignent pas. Tout juste se laissent-elles interpréter à nos risques et périls, pour notre bonheur aussi. Ce goût des manuscrits, on sait combien Hélène l'a en partage. Elle a souvent dit sa fascination pour le contact physique avec le manuscrit, qui permet de toucher de sa main l'empreinte de l'autre main, celle de l'écrivain. De retrouver la présence, encore, ce sont les fantômes, la présence encore vivante et déjà passante de celui qui écrit. La pensée est donc l'âme de Pascal, l'adolescence de Rimbaud, les ratures de Rousseau. Mais elle a souligné aussi la nécessité d'y recourir pour accéder à l'atelier, à la forge de l'œuvre, pour connaître cette illumination que seule nous accorde, nous plaçant du côté de la création plutôt que du créé, ce qu'elle fit dans la préparation de sa thèse sur Joyce, poursuivant de bibliothèque en bibliothèque sa quête des archives. C'est que pour Cixous, et heureusement pour nous, écrire, c'est écrire à la main. Effleurer la feuille de papier, image de la terre et de l'humus, dit-elle, lieu par excellence du sacré et du secret de l'écriture. Le don généreux de ces archives à la BNF s'inscrit évidemment dans cette célébration du manuscrit. Depuis l'an 2000, 17 ans déjà, 17 ans de vie commune, il faudra attendre 3 ans pour fêter le 20e anniversaire, je ne sais pas si Martha s'occupera de cela. Plus de 250 boîtes d'archives se sont alignées sur les rayonnages du département des manuscrits, composant le fonds Hélène Cixous, avec l'ensemble de ses fictions, pièces de théâtre, essais, séminaires, correspondances, etc. Presque tous ses livres y figurent sous forme manuscrite. Même les plus anciens qui avaient disparu y ont brusquement refait surface. C'est la rocambolesque histoire du prénom de Dieu, dont la redécouverte est narrée dans Double oubli de Laurent Houtan. Un ou deux manuscrits sont encore manquants, qu'on espère retrouver, soit dans la cave à vin de l'appartement parisien, soit dans les placards de la maison d'écriture d'Arcachon. Mais les premiers dossiers ne sont pas nécessairement exhaustifs, étant parfois privés de l'appareil des notes préparatoires. Cixous a raconté comment, soudain réveillé par les hurlements d'Ariane Mnouchkine qui la voyait mettre à la poubelle les différentes versions d'une pièce, elle avait pris conscience de la nécessité de tout conserver. Je me suis dit qu'il ne fallait pas jeter comme ça, il fallait garder. Maintenant, je garde scrupuleusement, quoi qu'en désordre, je garde mes traces. Ce sont ces traces désordonnées que recueillent les divers états de l'archive. Si le manuscrit définitif, quasi définitif, soigneusement folioté, ne pose pas de problème de classement, invitant, grâce au jeu de multiples paginations, à suivre les mouvements de rupture, mais souvent de dilatation de l'écriture cixousienne, si les multiples dactylographies, avec leurs corrections orthographes, reflètent les cheminements vers le livre jusque dans les surprises de dernière minute, les dossiers de notes sont peut-être plus difficiles à interpréter. À travers l'accumulation des feuilles volantes se mêlent des débuts de phrases, des bribes de récits ou de réflexions, des citations, des dialogues, des notes de conversation très fréquentes, quelques brouillons de rêves prises sur le vif, des pages de carnet, etc. C'est là sans doute la partie la plus fascinante de l'archive, d'autant qu'elle se tient à la frontière poreuse d'une terra incognita dont l'auteur s'est réservé la garde, à bon droit bien sûr. L'immense matériau des rêves, qui ne sont que partiellement livrés, cette écriture au réveil décrite si magnifiquement par Derrida, mais aussi le gisement des cahiers intimes qui, comme les rêves, relèvent de la sphère privée et préservent leur part indécidable de secret. Peut-être en trouve-t-on des traces dans les dossiers de notes, telle page arrachée à un bloc dont on soupçonne qu'elle provient de ce gisement interdit ou tel fragment photocopié, mais il ne faut pas le dire. Pour me guider dans ma déambulation à travers l'archive cixousienne, je me suis arrêtée sur un livre dont on a déjà parlé hier, un livre au titre un peu énigmatique, Benjamin à Montaigne, et au sous-titre paradoxal, Il ne faut pas le dire. Un livre qui m'a semblé mettre en scène et en question certaines modalités ou présupposés de l'écriture autobiographique avec beaucoup de guillemets. C'est le livre du voyage, ou plutôt des voyages, tant sont imbriqués avec de multiples effets d'écho et de résonance le voyage d'Osnabrück effectué par la mère et la tante d'Hélène et raconté par elle sur la scène de la cuisine d'Arcachon, et celui de Montaigne vers Rome, dont le journal de voyage en Italie sert de prétexte à un extraordinaire exercice de réécriture. C'est aussi le livre des interdits, de la jouissance enfantine à celle de l'écriture, de la dénégation de la vieillesse et de la mort, ou des drames de la famille Jonas. Mais comme le dit HC, ce qu'il ne faut pas dire, en l'écrivant, je ne le dis pas, je le sauve par change. Derrière son allure vagabonde, emportée par les digressions et ressassements de la phrase de Montaigne, ou la frénésie langagière de la parole maternelle, la composition du livre est infiniment complexe, ce que l'auteur, qui est sans doute son meilleur critique, mais il ne faut pas le dire, analyse dans un passionnant entretien donné à Éric Loret en 2011, au moment de la sortie du livre, dans Libération. Mais de ce livre, d'autres motifs m'ont retenu, plus proches de mes addictions archivistiques, celui en particulier, au sens métaphorique mais aussi littéral, de l'enregistrement. Image de l'écriture et de son avidité à capter le réel et les mots, le réel par les mots, il parcourt tout le texte et donne son titre au troisième chapitre, préféré au terme de « ramassage » qui apparaît sur la chemise du manuscrit. Je cite le livre à la page 66. Est-ce que cela a un sens de recueillir compulsivement tout ce qui vient, émane de ma mère, la collectionner de façon frénétique et néphrétique? Bon là, je fais une petite pause. Tout est écho et résonance dans les textes d'Hélène, vous le savez bien, et néphrétique, ça fait allusion à la maladie de la pierre, la gravelle dont souffre Montaigne. Ça fait allusion aussi, mais on le verra plus tard, au nom de Pierre, le frère. Donc, je reprends. Je ramasse. Tous ces bouts de papier, toutes ces pelures de mémoire, je suis le chiffonnier esclave de la maison. Qui peut savoir ce qui aurait une valeur plus tard? Je ramasse parce que j'oublie, je ne me souviens que de ce qui est écrit. Et je me suis mise à mon tour moi-même à ramasser, mais une poignée de feuillets seulement, que j'ai photocopié à titre d'exemple et avec une crainte, je vous l'ai dit, un peu religieuse. 5 feuillets. Le premier provenant du manuscrit quasi définitif de Benjamin, les 4 suivants du dossier de notes préparatoires. Donc, je vais les passer en revue avec vous. Le premier feuillet. Feuillet manuscrit qui commence par « J'écris ». On m'entend pas assez. Vous m'entendiez Oui. « J'écris tout ceci aujourd'hui, 31 juillet 2000. » Merci. « J'écris tout ceci aujourd'hui, 31 juillet 2000, sur un bloc LP qu'elle m'avait acheté en avril 1999, comme je l'avais indiqué sur la couverture du bloc, car ces blocs subreptices, je les utilise au fur et à mesure naturellement, et ils sont remplacés successivement par des blocs plus jeunes ou bien plus vieux, des blocs qui commencent par m'être contemporains, puis qui deviennent allongés sur mes étagères des simulacres tombeaux. C'est pourquoi je me hâte de les relever, de les remettre à mon heure. Je barre avril 1999 et j'inscris juillet 2000. Je me demande pourquoi j'inscris des dates, et je l'ai toujours fait, c'est une manière de miroir. Je me penche sur la feuille de papier pour qu'elle me dise aujourd'hui « Oui, tu es ici ». Et sur ces mots, ma mère entre. Que dire de ce premier feuillet ? L'écriture en est régulière, peu corrigée, remplissant soigneusement l'espace de la page. Mais quelques détails sautent aux yeux qui seraient plus visibles sur l'original que dans une photocopie noir et blanc. La différence d'encre. Qui suppose une pause dans la rédaction. Les deux premiers tiers sont un peu d'une écriture différente du dernier tiers. On s'aperçoit qu'il y a une correction qui a été rajoutée. Et surtout, la double numérotation des pages. Un chiffre qui se trouve à droite, au milieu de la page 15, et qui est en rouge sur l'original, qui appartient à la foliotation continue du manuscrit, et un autre chiffre en haut de la page à gauche, 4, qui est relatif à ce développement sur les cahiers de Leader Price achetés par la mère. Ce développement constitue en fait un ajout dans le déroulement du récit et une pause, une insertion qui donne à voir le présent de l'écriture, aujourd'hui 31 juillet 2000, dans un texte qui ne cesse de faire alterner les séquences temporelles. Enfin, on remarque au milieu de la page, mais cette fois à gauche, que le prénom d'Ève, je ne sais pas si vous le voyez, est barré et corrigé en Selma. On sait que dans le livre, les deux vieilles sœurs ne s'appellent pas Ève et Eri, mais Selma et Jenny. Le manuscrit montre que ce fut un choix rédactionnel assez tardif. Sans doute, m'a dit HC, pour indiquer explicitement qu'il s'agit de fiction. L'invention du personnage de la sœur, au rôle fugitif dans le texte, ou le projet évoqué un moment dans les manuscrits de changer le nom du frère, Pierre, en Samuel, pour se rapprocher du nom fictif de la mère, Selma, affiche le même souci de souligner le caractère fictif du texte autobiographique. Je ne suis pas dupe, dit HC dans un entretien à Genesis, du mythe de l'autobiographie véracité. Dès qu'on écrit, on est dans l'autre biographie. Mais faut-il croire ce qu'HC écrit ? Deuxième feuillet. Très différent d'apparence. Feuillet de notes, écrit au feutre et précisément daté, date qu'on imagine elle réelle, mais sait-on jamais. C'est là un des multiples exemples de l'attention portée par l'auteur à la parole maternelle et à la place dévolue à l'oralité dans l'écriture de Sixou. Captation, prédation ou éternisation des mots de la mère. « Ya, Hélène, je bosse, je t'aime. » Quelques lignes plus tard, « File und de sind des Asentod. » Ce sont des mots d'amour, mi-allemand, mi-français. Un proverbe allemand qui, j'ai consulté des germanistes, signifie « Beaucoup de chiens sont la mort du lièvre », qui fait peut-être référence, qui se rapporte peut-être à la situation des Juifs au temps du nazisme, dont des notes éclatées. Et puis enfin, une esquisse savoureuse de critique littéraire sur le travail d'Hélène, sur ses derniers livres, « Les rêveries » Osnabrück. « J'ai fini ton livre, c'est très bien. J'aurais pu faire des notes à côté de tes falsifications, de la fantaisie. Certaines choses que tu as racontées à ta façon, faut que je fasse des notes. Sinon, c'est très intéressant. Moi, particulièrement, ça m'intéresse. Il y a pas mal d'anecdotes, c'est ce qui me plaît. Quand je pense à tout ce que tu as écrit sur la pauvre Aïcha, qui ne s'appelait pas Aïcha, ça, c'est dans les rêveries. Il manquait encore beaucoup de choses. Faudrait que je marque sur un carnet. Osnabrück, tu as donné un peu de gloire à cette petite ville perdue. Quand je pense à Nicolas Hjorth, qui aurait cru que ça deviendrait si fameux. Et maintenant, il y a un bel immeuble à la place d'une autre. Avec l'introduction du terme « falsification », qui sera repris par deux fois dans le livre, au début et à la fin, comme si l'écriture qui doit afficher sa part de fiction doit aussi tendre à l'exactitude littérale et donc littéraire, la vérité, non la véracité. Mais cette langue maternelle qui baigne tant de livres sixtousiens est, de l'aveu même de sa fille, inimitable. Je peux imiter Stendhal, dit-elle, dans le manuscrit et dans le livre. Je peux imiter Stendhal, Hugo, Flaubert, Proust, mais pas ma mère. Elle seule pratique sa langue étrangère, la plus étrangère de toutes, la plus éloignée de ma portée, parce que la plus anciennement proche, elle est toujours restée si arrivante, si écolière. Pour l'écrivain, il ne reste donc qu'à l'inventer. Quelques lignes plus tard, écrire dans cette langue qui n'est pas la mienne, mais qui m'est venue d'elle, de la sienne, à cause d'elle, malgré, contre, avec, par, venue sous sa voix, derrière ses pas, entre ses facéties. Sous sa voix. Troisième feuillet, enregistrer les voix. L'enregistrement de maman, c'est le titre que donne Hélène Cixous à un extrait de son livre publié en revue. L'enregistrement par le magnétophone double la prise de notes, mais il s'agit de retenir presque désespérément ce qu'il y a de plus intime et de plus fragile dans la présence aimée, sa voix. Et l'enregistrement est une scène récurrente dans Benjamin à Montaigne. Et c'est une scène peut-être récurrente dans la vie de l'auteur, de la narratrice, puisqu'elle accumule aussi des cassettes de voix. Et l'on passe dans le livre d'une scène de transgression, quand la narratrice se cache derrière la porte entrebâillée pour épier les conversations, transgression comme le plaisir solitaire, à une scène de perte et de comédie, quand elle écrase d'un coup de pied la petite Sony où la parole des deux sœurs était enregistrée sur les cassettes d'oraison du Dalaï Lama, surimpression des textes, des écritures, jusque dans les cassettes d'enregistrement. La plupart des notes de cette longue page entreront dans le texte définitif. Je cite le début du livre imprimé. « J'ai mis des petits tas de feuillets et de carnets dans divers coins de la maison. Des crayons feutres qui glissent sur le papier pour noter le plus vite possible. Un pantalon treillé à vaste poche sur les cuisses où loge un petit magnétophone tout neuf. Ces cassettes où cascade la voix de ma mère, pas un instant je n'imagine qu'un jour viendrait où je les réécouterais. Alors, qui les écouterait ? Personne de la famille n'a jamais eu l'idée de les écouter. » Alors, je vous signale malgré tout que sur la page photocopiée, le « alors qui les écouterait » est de ma main, parce que ma photocopie était mauvaise, mais que je n'ai jamais écrit sur les manuscrits d'Hélène. Donc, tous ces passages de cette page de notes vont être réintroduits de manière un peu transposée dans le livre imprimé, sauf l'allusion à la postérité et à Stendhal, qui ne sera pas reprise, mais qui est souvent une pensée récurrente d'Hélène, à savoir, est-ce que si je ne suis pas lu aujourd'hui, ce qui n'est visiblement pas le cas, on me lira comme Stendhal dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis une phrase qui interroge, mais souvent les manuscrits interrogent et ne donnent pas de réponse, la phrase soulignée et par deux fois ponctuée, « Je sais bien que c'est moi le destinataire ». Avant-dernier feuillet. Pardon ? Je sens bien que c'est moi. Oui, j'ai mal lu ma propre lecture. Oui. Attendez, je suis perdu dans mes photocopies. Je sens bien que c'est moi le destinataire. Non. Ah, que le destinataire, c'est moi, absolument, oui. Il est glissé, le destinataire est glissé avant le « c'est moi ». Avant-dernier feuillet, moins éventuellement dramatique. Un feuillet de différents également qui correspond, enfin bon, la photocopie annihile les différences, mais c'est en fait une page de format beaucoup plus court, arrachée à un bloc de papier, intitulé « Volant 28700 ». En écho au champ spectral des voix, le concerto, c'est le titre donné dans le livre, des bruits familiers et familiaux venus de la cuisine. Présence de la famille en bas, voix de ma mère, voix de mon frère, coup de porte, placard, cuisine, verre, voix de ma mère, bruit de théière, bruit, etc., etc. Cette petite vignette musicale et drôlatique, griffonnée sur un feuillet de carnet volant, ou peut-être volé et daté, sera intégré presque sans modification à la fin de la première partie, comme si le réel acoustique avait déjà la forme du texte. Enfin, dernier feuillet, le plus impressionnant pour moi est celui dont je me suis approchée avec la peur religieuse la plus intense, l'écriture de la nuit. Le début de ce feuillet a été repris presque inchangé à la page 201 de Benjamin, quand l'écriture issue des profondeurs devient l'objet même de l'écriture du livre. Je cite le livre. Cette fois-ci, la nuit du 12 février 2000, quand même, la pensée a réussi à m'atteindre et je me suis réveillée en sursaut comme si l'anesthésie ayant cessé, je venais de ressentir la douleur d'une brûlure du troisième degré. J'ai crié dans l'obscurité, j'ai saisi Leader Price et à grande enjambée, j'ai écrit dans le noir « Je me révolte », signe mathématique, contre les rabbins. Nuit du 12-13-2-2000. J'ai baissé la main et j'ai écrit de même dans le noir. Les morts m'ont donné deux fois naissance. En dessous, né de la mort de mon père, puis né de la mort de mon fils. Dessous, mais je ne naîtrai pas de la mort de ma mère. Et suit la réécriture de ce texte, Montaigne, de la Boétie, Stendhal, de sa mère jeune. Au lever du jour, j'ai vu que le manuscrit était impeccable. Même aveugle, j'écrirai. L'écriture comme réparation de la perte, on en a parlé hier. Mais dans le manuscrit, il y a une sorte de contrepoint drôlatique, ce qui est souvent le cas chez Hélène. On passe du drame, des larmes, au rire. Et si l'on regarde la fin de la page manuscrite, qui a été sans doute écrite à un autre moment, peut-être au réveil, paradoxe, sans eux, chez nous, nous mangeons pour parler. Cette cuisine, c'est pour être avalée entre les conversations. Ma mère, la bouche pleine, etc., etc. En feuilletant les premières notes des manuscrits que je vous ai montrées, je cherchais ce qu'on appelait autrefois des sources, biographiques, anecdotiques. J'y ai trouvé déjà, peut-être, du texte, et que l'écriture était sa propre source. Est-ce cela la leçon des manuscrits d'HC ?
Marie-Odile. Donc, je vous propose de suivre le protocole que nous nous sommes donné, que je vous ai imposé, mais que vous avez accepté de bonne grâce. Et je me tourne donc vers la troisième invitée de cette première partie de la matinée, à savoir Nadia Setti, qui est professeure à l'Université de Paris 8. Encore une fois, je pense que tout le monde ici connaît Nadia, mais pour les nouveaux arrivants, peut-être est-il utile de donner quelques repères. Donc je le disais, Nadia est professeure en études de genre, études féminines et littérature comparée à l'Université de Paris 8, et elle est co-responsable du département d'études féminines et études de genre. Ses recherches sont évidemment très diversifiées et très abondantes, mais elles tournent en règle générale autour des problèmes liés à la création, au féminisme, aux pensées et aux théories du genre, aux lectures et écritures des différences. Parmi ces dernières publications, je voudrais attirer votre attention sur un texte qui a été publié dans Genre et Jouissance en 2017, qui est Le droit au cri, qui a un rapport avec le droit au cri. Un deuxième texte également, mais c'est en italien, puisque Nadia est notre voyageuse de service ce matin, Trescosse dans Terra e Parole, donné Scrittura Paesaggi en 2016. Et enfin, un texte qui pose une question intéressante, mais qui était en quelque sorte dicté par l'événement, puisque j'ai été de l'aventure. Ça a été publié dans un texte, dans un ouvrage collectif intitulé « Le genre, effet de mode, concept pertinent ». Et Nadia y posait cette question simple mais fondamentale. Le genre, une catégorie utile pour étudier la littérature. Et je pense qu'il y avait une petite référence à un autre texte très célèbre dans l'encyclopédie des études de genre. Je me tourne donc vers Nadia, qui nous propose une communication intitulée « Queer écriture », que je choisis de lire de manière très liée. À toi, Nadia. Merci.
Merci beaucoup et merci beaucoup à cet immense travail des organisatrices et organisateurs de ces belles journées. Alors, comment nommer cette chose, écriture, queer, pourrait être une traduction éventuelle, si l'on retient parmi ces nombreuses significations de ces termes, à ce jour, celle qui indique une configuration complexe, en rupture avec des modèles identitaires rigides, composés d'êtres en relation variable, au point d'utiliser fréquemment comme option les astérisques au lieu de la terminaison M ou F, donc autre. Je ferai comme ça. Queer, me disais-je, malgré une polysémie théorique et politiquement investie, pourrait s'accorder avec écriture en tant que trace de l'inconnu, imprévisible et bienvenue. Cependant, que faire avec les autres traits, bizarres, étranges, incorrects? Mon intention pour l'instant n'est pas de prendre l'avenue queer pour croiser l'avenue écriture sexu, mais de suivre le tournant de la suspension de nom, d'identité, de parcours, des temps. Il ne s'agit pas d'avancer une nouvelle théorie queer, augmentée de l'étude des textes sexousiens, mais de laisser paraître quelques traits et abords de l'idiome sexu. Et je prie comme exergue une phrase qui continue à briller, la phosphorescence de l'idiome, dans Homère, est morte, d'Hélène. Qu'on me permette une petite note autobiographique du côté de la lectrice que je suis devenue grâce à la lecture de ces textes qui ont changé abruptement et complètement l'orientation de mes recherches il y a très longtemps. D'abord par tous les signaux d'une incroyable liberté par rapport aux institutions de toutes sortes, critiques, linguistiques, littéraires. Quand cette force s'écrit, apparaît la toute-puissance littérature, sa fulgurance et même phosphorescence ne peut s'éteindre, continue, ça ne passe pas, et pourtant continue de passer. Donc, peu de temps avoir confirmé les titres, un autre s'est montré, celui-ci. Trois astérisques, écriture. Ce petit signe astral dénommé astérisque combine poétiquement l'astral étoilé et le risque. Cependant, l'astérisque est muet. Il s'adresse directement au lecteur, à la lectrice, sous-entendu, regarde par là. Tout au fond, ce petit astérisque signale ou dessine la traînée d'une étoile astéroïde qui apparut un certain jour dans la forme des livres, ou plutôt d'une langue, idiome, pas tout à fait comme les autres, sort of queer, du français bizarre et extrêmement sidérant. Depuis, cet événement, qui fut l'apparition queer d'une langue écriture-texte, n'en finit pas de semer ses astérisques et de frapper plus d'un sujet lecteur-lectrice, dont moi, de ses marques et clignotements. Comment lire les sèmes de ces textes infiniment dépliables et dérangeants? Une autre petite citation, cette fois du dictionnaire. Donc, l'astérisque, c'est un signe typographique en forme d'étoile pour indiquer un renvoi, une lacune, etc. S'emploie aussi simple ou triple à la suite de l'initiale d'un nom propre qu'on ne veut pas écrire complètement. Enfin, s'emploie à l'initiale d'un mot non attesté d'une racine hypothétique. Cette précieuse définition du Grand Larousse offre un certain nombre d'éléments qui nous seront utiles. D'abord, ce renvoi muet, petit signe visuel, écarte muettement la tentation de joindre à écriture une quelconque attribution impropre, qu'il s'agisse d'un substantif ou d'un adjectif, indique plutôt une direction vers ce qui est sous-entendu et par conséquent reconnu, ou bien vers ce qui ne doit pas se dire ou s'écrire, ou même se prononcer. Si les signes se multiplient, la chose devient plus grave, davantage risquée ou astérisquée. Les petites étoiles sont aussi un avertissement. Attention aux signes minimes, aux presque signes, sèmes, mots, car par là s'écrit, lit, ce qui ne peut s'écrire, ce qui ne peut pas s'écrire, l'autre livre, celui qui vient. Par la suite, je citerai un certain nombre d'exemples de ces mots astérisques ou phrases avec scintillement discret du secret. Deuxième petit chapitre que j'ai intitulé, encore pire, Ur cuir, leur cuir. Bon, je me réfère naturellement à Manille Dominique, qu'elle est la championne. En même temps, astérisque peut traduire ou ressignifier cuir, à savoir une altérité qui ne peut pas être, qui ne peut être assigné ni casé et qui résiste au système hétéronormatif, dans un genre ou un autre, un nom à consonance M ou F. Interrogation que l'on trouve très tôt dans les textes des années 60 et 70 à maintes reprises. Ce qui me suggère un autre sous-titre, donc plus ou moins acceptable, sorte de ur-cuir dans l'écriture sixousienne. Dans Prénom de personne, déjà cité hier, de 1974, je lis cela. Personne ne s'attache pas à un nom, aucun nom ne le lie à quelqu'un. Tout autre, il est toujours tous ceux qui le précèdent et qu'il traverse en se dévançant. Et un peu plus loin, plus offensif, il faut que cette discipline craque. Ce changement-là n'est pas définissable maintenant avec notre discours, mais il s'annonce. Hors tout, hors opposition, agression, asservissement, tel que le désir dit qu'il sera absolument insoumis. Fin de citation. Donc, on a donc peu lu, je cite, et il s'agit de lire avec toute autre pratique littéraire, philosophique, à définir. À définir quoi? Des textes de bord ou dehors. Comme ceux, c'était dans Prénom de personne, ceux de Hoffmann, de Kleist, de Poe, de Joyce, et aussi de Freud, en particulier concernant la Unheimlichkeit. Car, dit-elle, c'est il s'engage à texte nu pour lutter contre, je cite, la machine répressive qui a toujours eu les mêmes complicités. La raison homogénéisante, réductrice, unifiante, s'est toujours alliée au maître, au sujet, un, stable, socialisable. Chanteur de la dépense, poète de la contestation, ébranleur du narcissisme conservateur, briseur de jus et de liens, ils arrachent le sujet à l'asservissement, fondent le propre, désilopent. La marionnette coupe les fils, trouble les miroirs. Cette lecture-écriture se déplace du côté de l'autre. C'est le titre du premier chapitre des Prénoms des personnes. Et ce faisant, trouble les regards et les grammaires en entraînant à tromper l'œil et l'entente quant à toute identification entre le nom, la personne, le sexe, les genres. Il s'agit bien sûr de fiction, trompe l'œil. Autrement dit, de l'heure en tout genre déroulant un ensemble ouvert qui, me semble-t-il, est déjà le signe avant-coureur de cette littérature queer, de la préface à la réédition du Rire de la Méduse en 2010. Je cite, « La muse de la littérature, une queer. D'autres disent la queen des queers. La littérature comme telle est queer. » Nous ne pouvons pas, bien qu'on en soit tenté, subjectiver ou objectiver écriture. Certes, du point de vue du genre grammatical, il s'agit d'un substantif féminin. La langue, les discours, c'est connu, sont pris dans la logique et la loi du genre, du gender, que écriture ne peut ignorer. Ce qui entraîne une mobilisation constante, si ce n'est une lutte de tous les instants, contre le dispositif discursif, qui façonne la langue et dicte les cloisonnements en genre. Car, comme il apparaît dans la citation de Prénoms de personnes, il y a bien une lutte à mener, aussi ludique soit-elle, contre la logique phallique binaire, qu'il s'agisse du sujet unique, imposteur et imposant, de la logique mortelle du manque, des pièges du désir féminin et des déboires de la jouissance. Écriture est plutôt agent et agentiel, multiplicatrice des faits queer, à savoir des translations et des placements des genres. Y compris quand le nom de l'agence est écriture féminine. Le travail des sapes est encore plus intensif, offensif et jubilatoire. Car queer écriture est très souvent jubilatoire, même lorsqu'il est question du saut de l'autre côté, dans l'inconnu. Je cite, mais cette fois c'est la venue à l'écriture. Je suis morte. Il y a l'abîme, il y a les sauts, on les fait. Ensuite, une gestation de soi, un soi atroce. Pendant qu'elle se meurt, puis c'est né, silence. Quand je parle de fait queer, je n'entends pas un ensemble balancement masculin-féminin ou dérive de l'une à l'autre, car cela reviendrait à restaurer la dramaturgie des opposés dans une sorte de fausse égalité-alternance paritaire. Or, la langue est toujours poussée à ses extrémités. Dans un texte comme « La venue à l'écriture », ce sont toutes les ressources de la pronominalité au féminin, sujet, complément, qui sont intensément explorées et exploitées, ou plutôt ressuscitées. Regardons de plus près ces deux pages de « La venue à l'écriture », d'où est tirée la citation précédente. Dans cette phrase, après une série de sujets féminins, un « elle » apparaît « on » en italique, troisième personne neutre ou impersonnelle. On fait les sauts. La transition abrupte est préparée par deux courtes phrases qui débutent par « il y a ». C'est « il » qui est plutôt dérivé, toujours dictionnaire, de « illut » et pas de « il », comme les pronoms personnels, se confond avec le masculin, cependant il est hors genre. Autrement dit, cette gestation de soi en soi, atroce, qui est aussi condition et processus de gestation de l'écriture, s'effectue par les passages à « on ». À ne pas confondre avec la forme négative « non ». Cependant, signe d'une désappartenance profonde, séparation et éloignement de soi, à soi-même. Donc on a la série « La mort »,« Ma mort »,« Elle », qui reviennent aussi en lettres majuscules, et « on » aussi continue à circuler dans la ligne des textes entre les mots « son »,« l'on », »,« mon », »,« l'on fuit », »,« en son tissu », »,« mon écriture ». Pour ce qui est de ces identités des sujets, cependant, « mon corps est une ressource », un apprentissage qui est mis en avant. Je cite « Voici ce que mon corps m'apprend, se méfier de mots, de noms, ils ne sont que des outils sociaux, des concepts rigides, petites cages de sens qu'on met en place comme tu sais. » Pour que nous ne nous mélangions pas les uns les autres. Fin des citations. Ce ne sont pas des consignes ni des recettes, cependant des signaux à entendre lorsqu'on lit ces textes. Je cite « Écrire et traverser le nom, c'est le même geste nécessaire. » Troisième petit chapitre que j'ai appelé « Quel temps ?» Cette attention à la langue, à ses effets, à ses revers et déversements peut paraître obsessionnelle. Et l'écriture est une occupation constante. Obsessionnelle puisqu'il ne laisse pas de repos à l'interrogation et au doute. C'est principalement « je » qui est en proie constamment à la question, « des questions », au tiraillement, au tourment, aux affects. Je cite. J'ai écrit « Qu'est-ce que j'ai écrit ?» dit, qu'ai-je dit, qui, laisse, je ne peux pas répondre d'elle, ni elle de moi, deux baïonnées, nous aurons été faites pour nous taire, pour nous entendre, je précise que peu, c'est P-E-U-T, voilà, mais évidemment c'est aussi P-U-X, mais encore, quand, à quelle époque peut-elle se reposer cette question? Entre l'écriture et le temps, comme entre la vie et la mort, lequel est the queerest ou the everest. Il y a un déséquilibre ou état de renversement possible qui est une prélude au passage des lignes de séparation d'un à autre, astérisque. La prise de risque est un véritable enjeu auquel le lecteur est soumis. Ressentir l'égarement et le chevauchement des temps, des lieux, c'est attendu et annoncé. Il s'agit bien de cet être penché, pas droit, de celle qui se tient là où il y a à perdre. Du point de vue temporel, tout ce qui est à venir est aussi à perdre. Je cite. Au lieu de cela, je perds l'âme de 15 heures jusqu'au soir. L'erreur et le doute sont perchés comme des vautours sur mes épaules. Ça, je ne peux pas les noter. L'infirmière, aux yeux de Violette, penchée comme un ange au-dessus de maman, moi, sur le côté du lit médicalisé, dans une convulsion, ça, je m'en souviens. J'ai trouvé ça insupportable, cette espèce de vérité aux yeux de Violette. Fin de citation. Ça, disent Petit Robert et Grand Larousse, est une abréviation de cela. En psychanalyse, ça, c'est connu, est la traduction française choisie pour les S allemands, désignant l'ensemble des pulsions inconscientes en chaosmos intérieur. D'où l'agitation, le risque de tomber de l'autre côté. En tant qu'adverbe de lieu, ça désigne cet endroit-ci, ce côté par rapport à là, l'autre côté. Voir le couple, ça et là, dans le désordre, l'incertitude, l'imprécision. C'est bien de cette incertitude et instabilité du lieu de l'énonciation et d'identité du sujet que viennent les questions suivantes. Je cite « Pourquoi ça s'arrête ?» Pourquoi tout ça s'arrête? Pourquoi tout s'arrête? Aucune raison. Détourné de nom, les sans noms, presque innommables, se frayent un chemin dans les dialogues. Je cite. Ça va? Oui, ça va. Des profondes exclamations, ça va. Fin de citation. Plus loin, rebondissement, répétition, réitération ou citation. Ils disent que ça passe. La mort commence et recouvre tout cela où l'est. Cela prend des années et c'est le processus. Fin de citation. L'essor fait à ces mots d'une seule syllabe est divers et chargé de signification tu. Tantôt en italique, tantôt entre guillemets, tantôt dans une phrase interrogative, tantôt dans une phrase affirmative. Dernière partie. Spectre à témoin. Les temps sont troubles, bizarres. Temps au pluriel, car souvent juxtaposé, soumis à des allers-retours datés. Les dates notées dans les carnets alternent avec celles du jour de leur lecture. Ainsi, dans les chroniques, s'installe une chronologie haletante. Tantôt, l'après-temps précède, tantôt les jours et les années se chevauchent. Le lecteur, la lectrice, n'est pas sûr de bien suivre le déroulement des événements, sauf si ce temps, cet événement, c'est le cœur de l'écriture. Astérisque. Je cite. Je cherche la sortie en 2010, puis en 2011. Elle est derrière moi. C'était en 1967, comme en 2004, en 2001, 1972. Nécessité. Trouver un représent, sinon perdre une vie à la minute. Fin de citation. Ce qui, dans le langage freudien, est nommé Unheimlichkeit, retraduit récemment en inquiétante familiarité, désigne ce queer de la maison, moi, home, heim, qui est un présent ayant vaguement l'air d'un déjà là. Donc un présent déjà passé, une sorte de kaléidoscope temporel, comme si on était à la fois dans un autre temps, ou monde, ou corps. S'y ajoutent des expressions qui appartiennent à la langue courante et prennent tout à coup un aspect déroutant. Je cite « À plus tard », un jour ou l'autre, un de ces quatre matins, disait Isaac, la phosphorescence de l'idiome. Un des quatre? Lesquels? Quels quatre? Lesquels des quatre? Ces croisements et transpositions temporelles ont forcément des effets multiples sur les modalités de la lecture. Les sujets en lecture sont ou deviennent des hors-sujets, dérangés, hésitants, entre s'abandonner à la dislocation spatio-temporelle ou chercher à reconstituer une chronologie ordonnée, le temps de la lecture s'ajoutant à la série des plis temporels. Le fameux standing point incarné, embodied, se trouve dérouté pour plusieurs raisons. Premièrement, par les fréquents basculements. Deuxièmement, par l'incarnation plurielle. Quel corps? Les deux, l'ensemble fusionnel, le non-ensemble séparé uni, les corps passé-présent, quelle présence? Je cite, tout est spectre. Nous sommes tous spectres. Spectre, ce n'est pas ça. Quel est donc le plus spectral? C'est livre-ci ou c'est livre-là? Celui qu'on n'attend pas ou celui que, je cite, je dois écrire? Quel rapport entre l'écriture et l'habitation? Qui est ici chez soi? Si l'écriture enregistre le passage du temps, ce sont aussi les êtres qui passent par-ci et par-là, y compris « je », souvent « lieu de passage ». Ainsi, la spectralité comme mode de vie mélangé, avec invité permanent, revenant ou inattendu, est un des accidents queer de ces textes. On peut aussi la dénommer autrement, la maison littérature et ses lieux hospitaliers, des temps de vie-mort, les archivies, les postes-vie, c'est l'encours, archives virtuelles et réelles, palinceste infini. Auparavant, on a vu comme la répétition du même mot, ça, laisse passer un foisonnement de signification, de vie, mort, temps, de façon comparable. Trois lettres supportent une quatrième en réserve, on l'a plusieurs fois cité depuis hier, lost, los, los avec T, avec S, sans T et sans S, l'autre langue, l'allemand, ou bien les restes d'un mot ou d'un nom aimé, Carlos. Bien sûr, la citation d'une page à l'autre d'un texte, à l'autre, fait fonctionner la mémoire spectrale qui agit comme le spectre de la lumière par diffraction, c'est-à-dire action différée. Ainsi, les noms ne sont pas bannis pour toujours. Plusieurs, plutôt éclatés en plusieurs langues, texte, temps. Par exemple, Los, parti, séparé de Carlos, et aussi dans la question « Was ist los ?» dit ma mère. « Que se passe-t-il ? Que ne se passe-t-il pas ?» Los avec T fait partie paradoxalement, mais tout est paradoxe, des mots qui sauvent tout le monde. « All lost !» L'île de la littérature relève le monde. Je cite, avec les mots « los », le printemps dernier, je semais un livre. « Los est une graine de vie et de mort. » Ces spectres, espèces d'être intermittents et passants, peuvent être considérés comme ou cuir avant l'heure, passé et en même temps passant, sans véritable origine, mais toujours en passe de revenir, inattendu, bien qu'espéré. Bon, conclusion temporaire, parce que le temps passe. Je voudrais faire deux dernières remarques et attirer l'attention sur ce qui me semble important quant à cette queer écriture, ou plutôt stellaire ou astérisquaire. L'un est celui de l'intense dénomination, à savoir l'éclatement du propre nominal à la faveur d'un déplacement généralisé qui n'annule pas la nomination, mais relève les statuts signifiants d'adverbes, prépositions, expressions idiomatiques de la langue, ce que j'appellerais une effusion des sens de la signification. Ensuite, les êtres spectres mettent en évidence un dédoublement aussi généralisé, c'est-à-dire cette condition de doublure du vivant mort, de la vivante morte, et vice-versa, à savoir d'accompagnement constant des voix avec nom ou particule de nom. Merci.
Merci beaucoup, Nadia, et merci à Michel et Marie-Odile avant elle. Merci à tout le monde pour ces contributions très riches et très inspiratrices. Nous sommes riches, nous avons 15 minutes devant nous, peut-être éventuellement 5 minutes de plus, je ne sais pas, mais Martha insiste beaucoup pour que nous soyons très disciplinés et que nous prenions la pause à 11h15. Donc mon rôle en tant que président sera de veiller à ce que les horloges soient respectées. Les questions sont les bienvenues, d'où qu'elles viennent, c'est-à-dire à la fois du panel, de la salle, de l'auteur vivant. elles sont les bienvenues.
Alors, je reprends au vol ce que tu viens de dire, Frédéric. Parce que je vois bien que je dois y passer. Si je suis l'auteur vivant, voilà. Dire une phrase pareille me paraît comme une aberration. mais tu as raison de dire que, enfin, de qualifier l'auteur ici présent, si je suis présente ou s'il est présent, de vivant. Parce que ce n'est pas sûr du tout. Hein. Je pense que si c'est par opposition à l'auteur mort, je n'ai pas du tout envie de me dissocier des privilèges de l'auteur mort. Et puis je pense qu'un auteur est toujours déjà mort. Mais ça, ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle. C'est au contraire une très grande liberté. Par exemple, en tant qu'auteur mort, enfin, j'aimerais pouvoir assister à des colloques où, dans la plus grande liberté, j'apprendrai des choses qui ont été pensées sur l'auteur vivant et qui ont été élaborées. Parce que, très franchement, que je vous dise, quand j'écoute ces moments, ces grandes confidences tellement, tellement riches, j'apprends énormément. Et pas seulement j'apprends, mais en tant qu'auteur mort, je suis où elle est, ou il, enfin l'auteur, disons, c'est plus simple, l'auteur se voit de temps à autre ressuscité, remembré, et je suis où elle, il, ou l'auteur, reçoit des nourritures et des lettres qui sont parties il y a très longtemps, qui ont été oubliées et qui reviennent. Très récemment, je travaillais avec mes amies autrichiennes, qui, je ne sais pas si elles sont dans la salle, parce que je suis rentrée précipitamment, sur la traduction d'un texte de moi, qui s'appelle « Conversation avec l'âne », et où il y a l'auteur. Voilà, l'auteur est un des personnages de ce texte qui nous promène. Et elles m'ont dit, ben, on ne peut pas dire l'auteur en allemand, parce que c'est masculinisé. Voilà, on pourrait dire Autor, mais à ce moment-là, c'est attribué, justement. Et donc, est-ce qu'on laisse passer le fait que l'auteur reste un peu flottant en français? Ça, c'est tout à fait une question queer. Ou bien, est-ce qu'on prend la décision de traduire par Autorin? Voilà. Ben, il fallait décider, mais je n'avais pas envie de décider. Je n'ai pas non plus envie de décider entre auteur vivant et auteur mort. Donc, je préfère dire auteur. Et ensuite, on se débrouille. Alors, merci d'avoir fait revenir vers moi des moments d'exploration que j'ai perdu. Lost, est-ce que, voilà, lorsque Michel ressuscite Philippine complètement, je me rends compte que, heureusement que Philippine survit. En fait, l'œuvre est entièrement en état de survivance et l'auteur est mort. Et ça, il faut pouvoir se le dire. Et lorsque Michel donc relance, je redécouvre et je me dis, oh là là, quelle chance, j'avais perdu Don, qu'elle me rend. Don, dont je ne sais pas d'ailleurs, et là, alors là, on avait il y a eu tout un moment où j'écoutais en savourant et en me disant, comme la langue se joue de nous et de nos oreilles, de notre corps, de notre mémoire. Par exemple, est-ce qu'on dit Don, un titre magnifique par ailleurs, le titre de Michel, est-ce qu'on va dire Don? L'écriture se débrouille, hein, elle fait ce qu'elle veut. Mais alors, dès qu'on passe, justement, suivant les principes de la différence avec Anna, de l'écrit à l'oral ou inversement, on a problème. Alors, est-ce que c'est Don, ou est-ce que c'est Dan? Ça, je ne sais pas. Et bien sûr que lorsqu'on écrit, il est bien entendu, ou mal entendu, ou pas entendu du tout, que toutes les façons de faire résonner entre homonymie, homophonie, etc., les signifiants, nous sont accordés. Et c'est seulement lorsqu'on est convoqué dans le tribunal oral qu'on est obligé de trancher et de décider. Alors, même chose pour... Alors là, je ne sais plus que dire. Quelqu'un a écrit ce livre qui s'appelle Chapitre. Et c'est écrit L-O-S. Bon. Selon une lecture qui serait la mienne, je me serais laissé aller à dire chapitre L-O-S. J'ai noté avec intérêt que nul n'a dit L-O-S. Et qu'il il s'est décidé comme ça, mais sans décision. Hein. C'est venu, ce sont les langues qui décident. Et donc, ce qu'on a plutôt entendu, c'est l'os. Je ne sais pas pourquoi, hein, sauf si c'est la langue espagnole. La langue espagnole. de Michel qui a décidé que c'était l'os. Ceci dit, on ne dit pas Carlos. Non. Non. Donc voilà, donc on est joué, hein, on est joué. Oui. Oui, c'est plutôt un haut fermé quand on dit Carlos. Hein, oui. En anglais, et c'est très intéressant, l'os, la perte, se dit l'os. Voilà. Mais en allemand, l'os, avec sa sémantique extrêmement complexe et magnifique, c'est l'os. Was ist los? Was ist los? Et puis los, le destin, et tout ce qui se cache dans cette syllabe extraordinaire, et qui est évidemment une polysyllabe, c'est-à-dire qu'elle parle toutes les langues, et elle change chaque fois, ou elle apporte quelque chose de supplémentaire, qui n'est pas éliminé au moment où on travaille et on lit, si le lecteur est un lecteur qui aime lire, parce que, et ça, évidemment, c'est ce que Michel a mis en valeur de manière qui m'a vraiment enchantée, quand on sait qu'on a affaire à un texte qui est joué par les langues, qui joue les langues, qui joue des langues et qui est joué par les langues. Alors, je ne peux pas dire qu'à tel moment ou tel moment, c'est plutôt l'os que l'os, etc. Alors, comme dans la phrase que vous avez citée, je n'ai jamais aimé Isaac autrement qu'en français, jamais aimé autrement, je n'ai jamais aimé autrement qu'en français, etc. Tout ça, c'est un jeu en français, mais c'est à élaborer. Je suis contente que revienne se réaffirmer cette convocation des langues. Je dis convocation exprès, cette convocation des langues, cette convocalisation des langues. C'est aussi cette convolation, ça existe, ça? Non, alors je l'invente. Cette convolation des langues, ce mariage, ce jeu des langues. Parce que peut-être que c'est, je ne suis pas capable de le dire, c'est peut-être avec Philippine qu'il y a eu comme ça une sorte de tournant. Ce n'est pas un tournant qui rejette, c'est juste une spirale dans le travail, où l'auteur s'est dit, et puis flûte, il y en a marre de se dire qu'il faut écrire en français. Même si, bon, même si les journalistes vous disent, alors, vous écrivez en français, oui ou non, hein, puisque, bon. Bon, j'écris en français, mais dans ce français hospitalier et joueur qui fait l'amour avec plein de langues. Et à partir du moment, justement, où il accueille, où il échange, où il érotise, etc., il abandonne le privilège. Et donc, on peut lire à partir d'autres langues. Et ce que vous avez pointé, c'est-à-dire le travail sur les frontières que Marie-Odile a fait réapparaître avec son travail sur les manuscrits, ce que tu as fait en travaillant sur le hors et le bord, Nadia, tout ça est à ce moment-là rappelé et revivifié, ce qui est absolument essentiel. Je me suis dit qu'on avait fait une marche arrière par rapport, enfin, dans l'histoire de la lecture, il y a une historicité de la lecture, on est aujourd'hui très très en retrait, je trouve, par rapport aux belles époques de Joyce ou d'autres écrivains de cette époque qui avaient européanisé très largement, et plus en allant jusqu'aux Asies, la co-vocation des langues. Lorsque moi j'étais en apprentissage d'écriture, c'était une évidence qu'on pouvait parler Babel et que le monde allait vers une lecture polyglotte. Bon, ensuite on a régressé, puis maintenant je me dis que j'écrirai comme ça vient, comme les voix le disent, avec leurs langues qui sont toujours plurielles, avec leurs plurielles langues, plurilangues, et aussi avec leurs accents. Alors là, hop, ça c'est Nadia qui n'a jamais voulu perdre son accent. Non, c'est pas ça. Elle n'a jamais voulu se séparer de son accent. Et donc lorsqu'elle parle du mot Q-U-E-E-R, le prononce de sa façon à elle, tout à fait particulière, que j'aurais du mal à reproduire, mais qui provient d'une sorte comme ça de métissage avec un peu de tonalité italienne, ce qui fait que quand elle dit ce mot-là, elle dit cuir, d'une certaine manière. Je me dis, ah, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé que cuir, cuir, c'était cuir. Voilà. Voilà. Bon, ça y est, j'ai bouffé le quart d'heure.
Et bouffé, ben je vous propose une petite collation. Merci à tout le monde et merci en particulier aux communications.